Chapitre 7. En fin d'après-midi, Monin, Preux, Lemayeux et Boulanger se retrouvèrent dans le bureau de ce dernier. Par le biais des télécoms, Boulanger avait retrouvé trace de l'étrange coup de fil donné à Barbara Roussel. Tillier n'avait pas menti. Il y avait bien eu, le 25 septembre à 19h17, un appel pour la Villa Louise, qui avait duré un peu plus de 2 minutes. Il provenait d'une cabine située dans la gare de Lille. Les autres firent la grimace. C'était foutu pour retrouver celui ou celle qui avait téléphoné. La piste tournait court. Boulanger avait glané aussi des informations sur l'imprimerie. Après la mort de Gaston, Jean Tillier, quoique n'ayant pas le charisme de son père, avait su faire évoluer la vieille entreprise et lui rendre en douceur le virage de l'informatique et des nouvelles technologies, si bien que le carnet de commandes était plein. La bonne santé financière de l'imprimerie était d'autant mieux assuré que Tillier avait su faire entrer dans le capital de l'argent frais, tout en gardant la majorité et en restant le patron. Quant au passage de Barbara, à propos duquel il avait interrogé quelques secrétaires, il semblait déjà oublié. Et quand Boulanger avait insisté, il avait ressenti chez ses interlocutrices une indulgence amusée pour la maladresse de cette pauvre mademoiselle Roussel, et en aucun cas une haine rancie et tenace. C'est ça le problème, fit remarquer Preux. Quand on lit les dépositions des uns et des autres, on s'aperçoit que tout le monde l'aimait. C'est vrai, ça m'a frappé aussi, dit le Mayeux. Et pourtant, soupira Monin, il y a bien quelqu'un qui ne l'aimait pas tant que ça, et même qui ne l'aimait pas du tout, au point de la poignarder. Exact, fit Boulanger. Et donc de deux choses l'une, soit quelqu'un qui affirme sa sympathie pour elle ment, soit nous n'avons pas interrogé la personne qui l'a détestée. Et là, je pense bien sûr à Claude Gauvin. Je reste frappé, reprit Preux qui suivait son idée, par le fait que chacun était touché par sa fragilité et désirait la protéger. Sa sœur, son beau-frère, son ami l'ont montré et indiqué. Un dragon comme Georgette Lecœur, peu encline à faire des compliments, avoue qu'elle l'a trouvé sympathique, et je suis persuadé que Callot, qui en rajoute dans le cynisme, en pensait sincèrement pour elle. Monin profita de ce qu'il était question de Callot pour confier à Boulanger le Mayeux l'impression négative que celui-ci leur avait faite lors de son interrogatoire. Même si, pour elle aussi, il se complaisait à jouer un personnage antipathique. Le côté déplaisant du bonhomme est attesté par Mademoiselle Fougaille, qu'il a connue intimement, ajouta le Mayeux avec un sourire entendu. Comme tous le regardaient avec étonnement, il relata l'entretien qu'il avait eu avec celle-ci. Pour lui, les pressions que Callot avait exercées ces derniers temps sur Barbara pour obtenir, par son entremise, le budget publicitaire de l'imprimerie Tillier, pouvait constituer le véritable motif de la dispute du couple le dimanche après-midi. Si c'est le cas, dit Preux, il nous a menti tout à l'heure, et s'il a menti sur ce point, il a pu aussi mentir sur le reste. Oui, dit Boulanger, si c'est le motif de la dispute, il avait un mobile, et comme son alibi est des plus fragiles, il est certain qu'il s'agit d'un sérieux suspect. À ce propos, j'ai remarqué une chose, reprit le Mayeux. Les initiales de Georges Callot, c'est GC, celles de Claude Gauvin, CG. Or, vous savez aussi bien que moi qu'un pseudonyme est rarement choisi complètement au hasard. Presque toujours, il a un rapport précis avec le nom ou la personnalité de celui qui le prend. Il y eut un silence. Chacun envisageait l'hypothèse de Lemayeux. Ne nous emballons pas, finit par dire Boulanger. Ce que dit Patrick est troublant, mais il ne s'agit peut-être que d'une coïncidence. Nous avons tendance à nous focaliser sur Callot parce qu'il nous agace. Mais Gentilier et Georgette Lecœur n'ont pas plus d'alibi pour le moment du meurtre. Certes, je ne vois pas bien pour l'instant quelle raison Tillier aurait eu de la tuer, mais Georgette Lecœur, qui vous semble-t-il une admiration sans borne à son patron, a pu prendre ombrage de l'affection qu'il avait pour Barbara. Si l'on fait intervenir la jalousie, nota le Mayeux, alors Mademoiselle Fougaille a un mobile pour tuer. Callot l'avait lâché pour Barbara. Je vous assure qu'une femme pardonne difficilement cela à sa rivale. Il avait prononcé cette dernière phrase avec une telle conviction, un homme qui avait expérimenté ce genre de situation, que les autres ne purent s'empêcher de rire. Il y a aussi la question de l'anneau, reprit Boulanger. Si ce n'est pas Callot qui l'a donné, ce qui n'est pas encore prouvé, qui est-ce? Si l'on part du principe que c'est un homme qui le lui a offert, pourquoi pas Tillier, hasarda Monin. Il était peut-être amoureux de Barbara, ou même déjà son amant. S'ils avaient une liaison, dit le Mayeux, peut-être Rebecca l'avait-elle découverte et du coup, elle aussi avait un motif pour éliminer sa sœur. Preux secoua la tête. Cela fait beaucoup de peut-être. N'oublions pas que Rebecca est en définitive la seule à avoir un véritable alibi. Non, ce qui m'intrigue, c'est qu'on ait trouvé l'anneau dans cette petite poche et non à son doigt. Les autres s'attendaient à ce qu'il précise sa pensée, mais Preux, qui restait songeur, n'ajouta rien de plus. Si bien que Boulanger reprit la parole pour résumer l'impression générale. Beaucoup d'éléments sont troublants dans cette affaire. Je compte beaucoup sur les indices qu'auront pu collecter Fromont et son équipe pour nous faire avancer. Il est possible aussi que l'un des invités se souvienne de quelque chose. Il est quand même incroyable que personne n'ait rien vu. Comme ils allaient se séparer, Boulanger prit Preux à part. Puisque vous allez interroger cette journaliste de La Voix du Nord, Claire Bouvier ou Louvier, je ne sais plus exactement, regardez bien les clichés qu'elle a pris pour ce reportage. Il se pourrait que Georges Callot figure sur l'une d'elles, photographiée après son prétendu départ. Il ajouta avec un clin d'œil entendu. Si c'est un Playboy, elle n'a pas dû le louper. Preux sourit, mais Boulanger remarqua que ce sourire était crispé. Pour la deuxième fois de la journée, Preux franchit la Deule et entra dans l'Ambersart. En cette fin d'après-midi, la circulation était fortement ralentie, du fait des sorties de bureaux. Comme chaque jour de semaine, c'était le grand exode vespéral. Des milliers d'employés fuyaient l'île pour rejoindre leur banlieue. La chaleur restait intense, ce qui rendait les déplacements en voiture non climatisées pénibles. Preux remarqua que de nombreux conducteurs avaient tombé la veste et desserré leurs nœuds de cravate. Néanmoins, la plupart des visages dans les habitacles étaient rouges et congestionnés. Heureusement, l'avenue de l'hippodrome, bordée de grands platanes, était bien ombragée. Preux passa devant la Villa Louise, dont la grille était fermée, et poursuivit jusqu'au bout de l'avenue, où se situait l'agence de Lambersart de la Voie du Nord. Là, il dut s'annoncer dans un interphone pour pouvoir entrer dans le petit immeuble en briques qu'occupaient plusieurs entreprises. Quand il pénétra dans les bureaux du quotidien, situés au deuxième étage, il repéra presque immédiatement Claire Louvier. Tournant le dos à la porte, elle discutait avec un collègue. Ce dernier, en voyant Preux les regarder, tira Claire par la manche tout en désignant d'un mouvement de tête le lieutenant. Claire se retourna, sourit à Preux, et après avoir dit quelques mots à son collègue en lui faisant la bise, vint vers lui. Preux, qui l'avait interrogée la veille, juste après le meurtre de Barbara, alors qu'elle avait la mine défaite et les yeux brouillés de larmes, fut frappé par la beauté piquante de cette brune élancée, dont les yeux verts pétillaient. Bonjour, mademoiselle Louvier. Je suis un peu en retard. J'espère que vous n'êtes pas restée spécialement pour moi. Rassurez-vous, j'avais encore du travail. Mon article de demain a terminé. Il porte sur l'affaire Tillier. C'est moi qui en suis chargé. Il y avait un soupçon de fierté dans sa voix. J'en suis ravi, dit-il aussitôt sur ses gardes. Depuis son entrée dans la police, il se méfiait des journalistes, qu'il considérait comme des empêcheurs de tourner en rond, s'ingéniant, par la pression qu'ils exerçaient sur les policiers, à compliquer le travail de ces derniers, et allant parfois jusqu'à entraver le bon déroulement de l'enquête. Et moi, je suis ravi que vous soyez là, reprit-elle avec un sourire mutin, car il me manque quelques renseignements pour mon article. Vous pourriez peut-être m'aider. Évidemment, il n'allait pas le faire. Mais face à cette jolie fille, il décida de mettre des formes. Vous savez, mademoiselle Louvier, l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Il me semble pourtant que vous avez déjà des indices, comme cet anneau en or. Preux essaya de garder un visage impassible. Quel anneau en or? Voyons, lieutenant, reprit-elle d'une voix teintée d'ironie. Ne me dites pas que vous êtes amnésique. On a bien retrouvé sur la victime un anneau en or. Comment le savez-vous? Demanda-t-il, tout en se repotant illico de cette question stupide. Elle devait avoir un informateur à la police scientifique. Comme on dit dans les romans, j'ai mes sources. Vous ne comptez quand même pas que je vous les indique. Le ton restait légèrement moqueur. Il réfléchit un instant, choisit, faute de mieux, le registre solennel. Mademoiselle Louvier, dans l'état actuel de l'enquête, il ne doit absolument pas être fait mention de cet anneau. Ai-je dit que mon article allait en parler? Preux se sentait dominé pour la deuxième fois de la journée. Callot tout à l'heure, et cette journaliste maintenant. Il gardait une apparence calme, mais intérieurement, il bouillait. Il décida de changer de sujet. Je suis venu voir les photos que vous avez prises hier. Je sais, on m'a prévenu de cela, dit-elle sans bouger. Un silence se fit, que Preux se décida à rompre. Donc, vous me les montrez? Je dois vous montrer ceci, ne pas écrire cela. Vous me réclamez beaucoup de choses, lieutenant, dit-elle du même ton badin qu'elle avait adopté depuis le début de l'entretien. Et en contrepartie, vous me refuseriez les quelques informations que je vous demande? Il essaya une autre carte. J'aimerais bien vous aider, mais mon supérieur, le commandant Boulanger, nous a demandé la plus grande discrétion sur le déroulement de l'enquête. Lieutenant Preux, reprit-elle d'une voix où l'irritation perçait sous la raillerie, je suis certes jeune dans le métier. Toutefois, je ne suis plus tout à fait une débutante. Que ce soit à Dunkerque où j'ai commencé ou ici, chaque fois que j'ai couvert un fait divers et que j'ai contacté la police, ou la gendarmerie pour étoffer mon papier, on m'a sorti cet argument. Information ultra confidentielle. Désolé de ne pouvoir vous les communiquer. Mais vous devez comprendre que l'imprimerie Tillier est connue dans la région, que la mort de cette fille, dans les circonstances où elle s'est produite, a suscité, selon la formule consacrée, une certaine émotion, et qu'il est du devoir d'un quotidien de la dimension de la Voix du Nord de rendre compte de cet événement. Croyez-vous que nos lecteurs vont se contenter, pendant je ne sais combien de jours, de la phrase « L'enquête se poursuit, mais nous ne pouvons rien vous dire » Preux, qui sentait confusément au fond de lui qu'elle n'avait pas complètement tort, mais ne voulait pas se l'avouer, pour ne pas revoir en remettre en question des certitudes commodes, changea encore de tactique. Écoutez, lui dit-il, après avoir fin de peser le pour et le contre, je vous propose un marché honnête. Vous me montrez les photos, vous me dites en gros le contenu de votre article de demain, et en échange, je vous donne un renseignement important. Il insista sur ce dernier mot. Si important, du reste, poursuivit-il après un silence, que je vous demande de le garder pour vous un moment encore. Pendant un long moment, elle resta sans rien dire, ses yeux verts fixant Preux avec intensité. D'accord, lâcha-t-elle finalement, marché conclu. Simplement, on inverse l'ordre. Vous me donnez l'info, et ensuite je vous montre l'article et les photos. Là encore, il fit semblant d'hésiter. Ok, dit-il en soupirant. Alors voici le renseignement que nous avons obtenu. Il est quasiment acquis que Claude Gauvin est une femme. Il laissa la surprise s'imprimer sur le visage de Claire. Bien sûr, poursuivit-il avec un sourire entendu. Vous comprendrez que moi non plus, je ne puis vous révéler mes sources. C'est de bonne guerre, dit-elle en lui rendant son sourire, apparemment satisfaite. À mon tour, venez, suivez-moi. Elle emmena Preux dans une grande pièce qui comprenait plusieurs bureaux, chacun muni d'un ordinateur. Elle contourna l'un d'eux, ouvrit un tiroir, en sortit une pochette photo. Tenez, vous trouverez peut-être votre bonheur là-dedans. Preux, tout en veillant à rester face à elle, de façon à ce qu'elle ne puisse voir quelle photo l'intéressait, commença à les examiner. Il y en avait une petite trentaine, dont un certain nombre était agrandi. Les quatre premières représentaient Gentilier pendant son discours. Même celle-là était intéressante, car Claire Louvier avait choisi un plan large, qui englobait une partie du public. Quant aux autres, elles représentaient des invités, notables ou anonymes, seuls ou en groupe, par-ci et là pendant la réception. Preux reconnut au hasard des photos Georgette Lecœur qui semblait couvée du regard Gentilier, Rebecca Tillier jouant sur la pelouse avec ses deux enfants, ou Barbara Roussel qui riait de bon cœur avec Mélodie Fougaille, à petit four à la main. Il resta un bon moment pensif devant ce dernier cliché, où Barbara paraissait si joyeuse, puis recommença à faire défiler les photos. Certaines têtes lui étaient vaguement familières. Il s'agissait de gens qu'il avait entendus dans l'après-midi au SRPJ. Georges Callot n'apparaissait sur aucun cliché. D'une certaine façon, il en fut soulagé, ayant encore en tête l'ultime remarque de Boulanger avant son départ. Alors, la pêche est bonne? Demanda-t-elle soudain sur un ton faussement détaché. Difficile à dire comme cela, répondit-il sans se compromettre. Pouvez-vous me laisser les négatifs? Nous essaierons de mettre un nom sur chaque visage et nous verrons ainsi s'il ne reste pas un ou une inconnue. Vous pouvez garder toute la pochette. J'ai déjà refait des doubles. Pour le jour où vous arrêterez le coupable, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux. Ensuite, elle lui montra l'article, en fait pratiquement terminé. Il ne comportait que peu de faits, mais s'avérait intéressant car l'auteur multipliait les hypothèses et suggérait des pistes somme toute plausibles, pensa Preux qui constata qu'elle recoupait celles qu'ils avaient évoquées plus tôt dans le bureau de Boulanger. À aucun moment, elle n'évoquait l'anneau en or retrouvé sur la victime. Pendant un court instant, devant l'honnêteté de la jeune femme, Preux s'en voulut de lui avoir donné une information bidon. Plus tard, en revenant vers l'île après avoir pris congé d'elle, il essaya de se justifier à ses propres yeux. Ce n'était pas la première fois qu'il utilisait ce stratagème, même s'il y répugnait à y recourir. D'ailleurs, s'agissait-il vraiment d'un faux renseignement? Claude Gauvin pouvait être une femme. Et puis, il avait dit « quasiment acquis ». Il restait une marge d'incertitude qui lui permettrait de dire que la police s'était trompée. Malgré tout, il sentait bien que ce plaidoyer pro domo était tiré par les cheveux. Les autres fois, sa conscience s'en contentait. D'où venait qu'il gardait cette fois un sentiment de culpabilité tenace? Plus tard, rentré chez lui, il eut du mal à s'endormir, et quand il y parvint enfin, il rêva qu'invité à la réception, il entendait le cri de Barbara, arrivé le premier dans le petit salon. Mais quand il se penchait sur la victime, celle-ci avait le visage de Claire Louvier.